Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors pour cette émission de Gulliver, nous avons rencontré Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, qui était donc invité vendredi dernier à la salle Pétrarque à s'exprimer sur son dernier livre. Cet entretien a duré une heure. Grâce à la librairie des cinq continents, vous allez entendre la première partie de cet entretien et vous entendrez la deuxième partie la semaine prochaine. Alors quelques mots d'abord sur Sylvain Tesson. C'est un écrivain voyageur qui a découvert l'aventure en 1991 à l'occasion d'une traversée à vélo du désert central d'Islande. Et à partir de là, il ne cessera plus jamais de voyager. Il va le faire avec de nombreux amis, mais également tout seul, en solitaire. Il collabore avec Alexandre Poussin, par exemple. Et il collabore également avec Priscilla Telmont, qui est une photographe avec qui il réalisera un album sur leur périple en Ouzbékistan. En 2001 et 2002, il participe à ses premières expéditions archéologiques au Pakistan et en Afghanistan. Il ne cessera d'ailleurs de participer à ce genre de manifestations, à ce genre d'expéditions avec des organisations non gouvernementales, souvent d'ailleurs à destination humanitaire. En 2007, le documentaire Irkoutsk-Pékin, la route des steppes, qu'il réalise avec Nicolas Millet, retrace son expédition d'Irkoutsk à Pékin en empruntant la route du Transmongol. En 2010, il réalise un projet souvent évoqué auparavant en allant vivre 6 mois, de février à juillet en ermite, dans une cabane au sud de la Sibérie sur les bords du lac Baïkal, à environ 500 km au nord-est d'Irkoutsk. Selon ses propres dires, recette du bonheur, une fenêtre sur le Baïkal, une table devant la fenêtre. Il relate cette expérience solitaire dans son journal intitulé « L'année suivante » sous la forme d'un essai biographique dans les forêts de Sibérie. Ce livre aura d'ailleurs un énorme succès. Il voyage la plupart du temps par ses propres moyens, c'est-à-dire sans le soutien de la technique moderne, en totale autonomie. Ses expéditions sont financées par la réalisation de documentaires, par des cycles de conférences et par la vente de ses récits d'expédition. Sylvain Tesson a reçu de nombreux prix. C'est ainsi qu'il a obtenu le prix Goncourt de la Nouvelle en 2009 pour « Une vie à coucher dehors » et le prix Médicis, essai, en 2011, précisément pour « Dans les forêts de Sibérie ». Par ailleurs, en dehors du fait qu'il est écrivain, il est stégophile. Alors c'est une expression qu'il a forgée lui-même d'ailleurs et il l'est depuis son adolescence. Ce terme devrait avoir comme synonyme plus courant « toiturophile ». Pour nommer une activité consistant à monter sur les toitures, et dans son cas, essentiellement celle des cathédrales, qu'il gravit chaque fois qu'il en a l'occasion. Pendant plusieurs années, le 10 mars, date anniversaire du soulèvement tibétain de 1959, il pavoisait d'un drapeau tibétain un lieu symbolique de Paris. Et c'est ainsi qu'il l'a fait sur Notre-Dame et tout un tas d'autres toits prestigieux. Le 20 août 2014, il fait une chute de près de 10 mètres en escaladant la façade d'une maison à Chamonix alors qu'il séjournait chez son ami Jean-Christophe Ruffin avec qui il pratique l'alpinisme. Victime d'un sévère traumatisme crânien et de multiples fractures, il est hospitalisé à Annecy et placé en coma artificiel. Réveillé 8 jours plus tard, par miracle, il n'a aucune séquelle neurologique. 3 mois après cet accident, voilà comment il décrit cette épreuve. Ces 3 mois de repos, de sobriété, de silence et d'examen de moi-même ont été bénéfiques. Ma vie était un carnaval endiablé et légèrement suicidaire. Il était bon de ralentir un peu les chaudières intérieures, de descendre du train. Je conserve une paralysie de la face qui me donne un air de lieutenant prussien de 1870. J'ai aussi perdu l'ouïe à l'oreille droite, mais étant partisan du silence que René Char appelait l'étui de la vérité, je ne m'en plains pas. notre société est devenue hystérique et bruyante. Et c'est donc à l'issue de cet accident que, presque un an jour pour jour après, Sylvain Tesson va partir dans une traversée de la France. Traversée qu'il va faire en diagonale à partir de la région de Nice pour terminer sur le Cotentin, à l'extrême bout du Cotentin, là où les bateaux ne peuvent plus que venir en secours des naufrages des navires dans la Manche. Et cette traversée va faire l'objet d'un livre sur les chemins noirs qui relate l'intégralité de cette diagonale particulière dont il va s'expliquer dans l'entretien qui suit.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées.
Sylvain Tesson, je crois qu'il y aura un avant et un après sur les chemins noirs. Ce livre qui clôture une période de 2 ans, on pourrait dire, après un événement qui, a à la fois été un chamboulement dans votre vie et en même temps l'origine de ce nouveau livre, un livre de marche, comme vous en avez déjà fait, mais curieusement, après avoir parcouru le monde, vous avez choisi de parcourir la France en diagonale, du sud au nord. Est-ce qu'on peut parler quand même un petit peu de cet événement et de en quoi il a déclenché l'écriture de ce livre ?
Vous me demandez, si je comprends bien, de parler de la genèse, des origines de ce livre, qui est un récit de traversée de la France à pied. Il se trouve qu'il y a exactement 2 ans, enfin c'était au mois d'août 2014, j'ai été victime d'un accident, d'une chute, et j'ai séjourné longuement à l'hôpital. J'avais des atteintes corporelles assez graves, dont on me disait que certaines pouvaient probablement m'empêcher de refaire plus tard ce que j'aimais, c'est-à-dire des activités sportives, l'alpinisme, l'escalade, voire la marche à pied. Alors évidemment, j'en ai conçu quelques inquiétudes pendant ces mois que je passais à l'hôpital. Et puis peu à peu, les choses sont allées de mieux en mieux. La médecine, vous voyez, on a beau être contre le progrès, c'est quand même assez agréable d'être soigné au début du XXIe siècle, quoi, plutôt qu'à l'époque où... De laquelle datent ces architectures. Si bien que, au fur et à mesure où j'ai commencé à reconquérir mes forces, je me suis presque juré c'était presque un serment que je me suis fait qu'un jour je traverserais la France à pied. Voilà, une fois que je serais parfaitement remis debout. C'était une sorte d'aiguillon, d'objectif qui me permettait de tenir moralement, comme lorsque on se donne des objectifs comme ça, quand on traverse un moment un peu sombre. Voilà, c'est quelque chose d'assez ordinaire au fond, c'était quelque chose qui me permettait de tenir. Et puis il se trouve que lorsque j'ai été remis d'aplomb, j'ai tenu mes promesses. Voilà. Moi, j'ai fait énormément de serments et que je ne tenais pas. Alors là, il était enfin temps de tenir une promesse, et je l'ai fait. Elle consistait à partir du sud-est de la France, du Mercantour, et d'aller jusqu'au Cotentin à pied.
Et pourquoi précisément cette diagonale-là ?
Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en général, quand vous décidez de traverser ce qu'on appelle horriblement en langage administratif hexagone, Vous partez d'un coin et vous allez à un autre coin. C'est la définition d'un hexagone, quoi, et puis d'un transect. Je voulais aller vers la mer, vers le nord et vers la mer, parce que je me disais qu'il y avait comme ça quelque chose d'assez symbolique à s'arrêter au bord d'une falaise, puisque c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire, moi. D'ailleurs, c'était presque la conséquence de ma chute. Donc je voulais que ce voyage se termine au bord d'un tombant géologique. Alors là, c'était les falaises du Cotentin. Alors j'aurais pu, vous allez me dire, d'ailleurs c'est ce que vous me dites, prendre une autre diagonale, et notamment celle qui avait suivi, souvenez-vous, en 1973, Jacques Lacarrière, lorsqu'il avait fait son chemin faisant, ce très beau livre, très gracieux, plein de poésie, plein de cette espèce de génie de Lacarrière pour faire naître en lui des pensées très universelles et très générales en contemplant les petites manifestations particulières de la nature. Lui était parti du nord-est jusqu'aux Landes. Il avait suivi quelque chose qui, à l'époque, s'appelait la diagonale du vide. Les administrateurs, les géographes, avaient détecté qu'il y avait dans ce long couloir reliant les Landes jusqu'à l'Alsace une zone française qui était tout à fait dépeuplée. Or, 40 ans ont passé depuis le voyage de Lacarrière, et entre-temps, le paysage, la géographie de la déprise agricole a changé. Aujourd'hui, les zones qu'on pourrait considérer comme dépeuplées, ou comme hyper rurales, ou comme très décentralisées, ou comme des zones peu favorisées par l'équipement administratif, suivent une bande qui va grosso modo du Mercantour jusqu'au nord du Massif central, c'est-à-dire l'autre diagonale qui croise celle de Lacarrière et celle de la diagonale du vide. Or, moi, c'est celle-là que j'ai choisie en m'appuyant sur un rapport gouvernemental qui venait de sortir au moment où je suis sorti de l'hôpital, un rapport qui s'appelle Hyper-Ruralité, où on voyait très bien, grâce aux cartes, on voyait très bien le dessin de cette bande de territoires hyper-ruraux. Et comme je voulais vivre dans le silence, dans la solitude, dans une certaine forme de repli intérieur, je me suis dit que c'était idéal pour moi de suivre un cheminement le long de cet itinéraire correspondant à l'hyper-ruralité. Enfin, vous voyez, je viens de répondre de manière très compliquée à une question très simple qui était de savoir pourquoi est-ce que j'ai bâti ce voyage comme ça. Mais c'est très compliqué, la France, parce que lorsque vous voulez traverser, vous êtes évidemment plein de tentations, de la Bretagne aux Alpes, de l'Alsace aux Pyrénées, de Dunkerque aux Sainte-Marie-de-la-Mer, puis vous ne savez plus quoi faire. Alors il fallait bien que je tranche, et cette idée de suivre le couloir du vide, de l'hyper-ruralité, m'a beaucoup aidé dans ma décision.
Alors, l'hyper-ruralité, on y reviendra parce que vous avez des mots extrêmement sévères pour ces fameux rapports ministériels. Alors, je crois qu'il faut dire que vous avez une formation de géographe et ce n'est pas totalement innocent dans votre manière d'aborder le paysage. Vous avez une façon de souligner tous les aspects, qu'ils soient géologiques proprement dit, que ce soit la flore. Vous avez donc c'est une description extrêmement précise et détaillée et on sent derrière presque le scientifique, même si l'écriture dépasse de loin cette simple description. Alors le livre se présente comme un carnet de voyage qui commence le 24 août et qui se termine le 8 novembre. Donc au total, presque 2 mois et demi donc de marche, et de marche pas facile toujours, parce que ce qui vous est arrivé se rappelle sans arrêt à votre souvenir, en dormant, en vous réveillant. Enfin, c'est donc un périple presque de remise en train et en même temps avec un petit côté initiatique vers une, peut-être on se dit, vers une vie, une nouvelle vie, une vie nouvelle. Est-ce que le fait d'avoir traversé la France avait un sens particulier plutôt que partir, comme vous l'avez fait autrefois, vers des destinations beaucoup plus lointaines?
Oui, il y a deux réponses que je vous donnerais. D'abord, j'apporterai, avant de vous donner ces réponses-là, un tout petit correctif, ou en tout cas une toute petite expression en forme de bémol à ce que vous venez de dire. Je ne suis pas vraiment géographe, j'ai étudié un peu la géographie très modestement, parce que malheureusement j'ai toujours été plus cancre qu'universitaire. Alors j'ai étudié la géographie jusqu'à la maîtrise, la géopolitique jusqu'au diplôme d'études appliquées. Mais je n'ai jamais ni réussi l'agrégation, ni passé de doctorat. En revanche, mes maîtres, mes professeurs m'ont donné le goût de cette extraordinaire capacité d'observation des grands géographes. Je ne sais pas s'ils m'ont transmise, en tout cas, ils m'ont éveillé. au regard géographique que l'on peut porter. Et qu'est-ce que c'est que le regard géographique, puisque vous l'évoquiez sur un paysage? C'est précisément le regard qui essaye de ne pas uniquement se concentrer sur une des spécialités de la science. Quand vous êtes devant le paysage, vous ne le regardez pas uniquement avec l'œil de l'agronome ou avec l'œil du géologue ou avec l'œil du climatologue ou avec l'œil du podologue, mais vous essayez au contraire d'embrasser tous les champs de ces disciplines et de ces savoirs pour essayer d'apporter, un peu comme le peintre finalement, pour essayer d'apporter sur ce territoire ou ce paysage que vous observez un regard plus généraliste, ou en tout cas plus généreux finalement. Alors maintenant, la question de savoir s'il y a eu un changement qui s'est opéré et pourquoi, grâce à la marche, je vous répondrai deux choses. Et puis pourquoi la France, me demandiez-vous? Je vous répondrai que quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais quand même assez affaibli. Maintenant, tout va mieux. J'ai quasiment reconquis absolument toutes mes forces. Mais j'étais un an plus tard très, très affaibli, très abîmé. Et du coup, je n'allais pas tout de suite me lancer dans une traversée, encore une fois, d'une Papouasie-Nouvelle-Guinée ou d'une chose comme ça. Il fallait quand même que je ramène mes désirs de voyage à des objectifs un peu plus modestes par la force des choses. Ça s'appelle le déterminisme parfois. J'étais tout d'un coup légèrement guidé par les circonstances. Alors je me disais que la France allait très bien convenir à ce besoin tout d'un coup d'effort, de liberté, de solitude que j'avais. Deuxièmement, je ne connaissais pas très bien ce pays. Par une sorte de paradoxe un peu idiot, j'avais passé une vingtaine d'années à bouger frénétiquement autour du monde, à prendre des bateaux et des avions pour aller explorer les quatre coins des continents. Je ne connaissais pas grand-chose d'autre que les lieux d'escalade dans lesquels j'allais grimper, c'est-à-dire les Calanques et les Alpes. Alors, c'était une manière de corriger cette absurdité, mais qu'on rencontre partout d'ailleurs. Vous savez, les Parisiens ne vont jamais au Louvre, les Moscovites ne vont jamais à la galerie Tretiakov, et il y a très peu de Madrilènes qui vont au Prado. C'est une sorte de, finalement, d'absurdité du penchant humain consistant à toujours désirer ce qui est très loin de soi. Alors là, j'ai essayé de corriger cet invariant humain en me disant que j'avais justement une occasion de me pencher sur ce pays qui était le mien, à la surface duquel je vivais, que je ne connaissais pas. Et alors ensuite, la marche, je savais, pour l'avoir déjà beaucoup éprouvé par le passé, que la marche allait me donner toute une série de bénéfices psychologiques, moraux, physiques évidemment, musculaires. La marche, c'est formidable parce que c'est musculairement extrêmement bénéfique, c'est articulairement très doux, c'est moralement vivifiant, c'est psychologiquement très apaisant parce que vous êtes comme ça, dans cette espèce de défilement des paysages. Et puis c'est génétiquement tout à fait compatible avec ce que nous sommes, parce que nous sommes, c'est ce qui nous fonde, nous sommes des bipèdes et il est très probable que nos cellules, nos gènes peut-être, enfin je ne suis pas du tout un biologiste, mais ont conservé une sorte de mémoire de notre bipédie ancestrale qui faisait que nous avons été à un moment des êtres vivants qui nous déplacions dans les savanes du monde. Nous étions affamés et du coup nous pouvons marcher très aisément pendant plusieurs jours sans nous nourrir en marchant 10 heures par jour. C'est quelque chose qui n'est pas du tout difficile en fait pour un corps humain. C'est évidemment désagréable parce qu'on rêve de croiser une boulangerie sur son passage et ça n'arrive jamais. Mais physiquement et physiologiquement, on est tout à fait capable pendant 2 ou 3 jours d'avancer sans rien manger. Et ça, c'est probablement une mémoire du gène.
Alors, ce carnet de voyage porte un titre qui revient un petit peu comme un fil rouge dans le cours du récit, sur les chemins noirs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la noirceur de ces chemins?
Oui, alors pour moi, les chemins noirs, c'est plusieurs choses. Quand vous ouvrez une carte d'état-major, une carte au 25 millième, une carte de l'IGN, que vous trouvez à la librairie des 5 continents, j'imagine, quand vous ouvrez une feuille au 25 millième, vous voyez une représentation du territoire qui est assez magnifique. Nous avons la chance, nous autres Français, d'avoir une totalité de notre territoire qui est couverte à l'échelle du 25 millième, c'est-à-dire 1 cm pour 250 mètres, la totalité de notre territoire, de la Bretagne jusqu'aux Alpes. Or, c'est très rare, il n'y a que, je crois, les Suisses qui partagent avec nous cette faveur. Et cette couverture-là, cette échelle-là est une échelle bénie pour les marcheurs, car c'est l'échelle qui vous permet de visualiser ce que vous pouvez, la distance que vous pouvez accomplir en quelques minutes, et du coup vous rendre compte de l'inclinaison de la pente, de son exposition au soleil, de la couverture végétale que vous aurez à traverser, et même de la géologie. Il y a quelque chose de formidablement révélateur dans ces cartes-là. Et elles sont striées de tout le réseau de veines routières qui zèbrent le territoire, y compris, alors évidemment, il y a les autoroutes, les routes, les nationales, tout le goudronnage du territoire, et y compris les chemins ruraux, parmi lesquels il y a des petits chemins que j'appelle les chemins noirs, qui sont en fait les pistes rurales, les pistes forestières, les pistes paysannes, les sentiers, les sentes, appelons-les comme on veut, et qui sont représentés par un tout petit liseré, le plus fin possible, et qui en général correspond à des endroits de jonction entre des pays, des territoires ou des vallées, mais des sentiers assez oubliés où tout est possible, où l'aventure est possible. Et c'est ça que je cherchais, moi. Je cherchais à m'extraire des grands flux et des grands axes. Alors, de temps en temps, j'ai marché sur les sentiers de randonnée, mais la plupart du temps, je cherchais ces petits chemins.
Vous ne les aimez pas, les chemins de randonnée ?
Pas énormément. C'est-à-dire ce que je ne désirais pas, c'est me sentir aspiré dans une espèce de flux qui appartenait à une volonté politique d'aménagement. Je trouvais qu'il y avait à la fois une grâce, une poésie, un mystère, une sorte de liberté. Je viens d'apprendre que votre radio s'appelle Divergence. Eh bien, une forme de divergence dans ces petits chemins que j'appelle les chemins noirs. Or, sur le cartouche de légende de la carte IGN, que vous voyez en bas à droite, où sont exposées toutes les légendes des petits symboles de la carte, il est indiqué que ces tout petits chemins noirs, qui parfois deviennent des pointillés, alors là, c'est encore mieux, il est marqué que ce sont des sentiers à la praticabilité aléatoire. Alors moi, ça, j'adore cette expression, ça me semble tout à fait beau. Et que la garantie, la praticabilité aléatoire et praticabilité de l'itinéraire n'est pas garantie également par l'Institut géographique national. Alors tout ça nous amène à l'idée que tout est possible là-dessus, que nous sommes dans l'aventure, que quelque chose peut jaillir. Voilà, ça c'est la première définition du chemin noir pour moi. C'est la définition de la représentation, c'est la définition graphique. Ensuite, sur le terrain, je viens de vous le dire, ça se manifeste par un sentier qui disparaît dans la broussaille, un sentier qui traverse une forêt, un sentier qui caracole en lacet le long d'une pente, des choses comme ça. Ce sont des sentiers qui ont été oubliés parce que ce sont des sentiers qui ont connu l'abandon par toute une population qui, depuis 5 décennies, est passée de 10 millions d'habitants à 500 000. Je veux parler évidemment des paysans. La déprise agricole, la fin des paysans, comme disait Henri Mandras en 1960, cette espèce de grand phénomène qu'on peut appeler l'exode rural et qui a connu évidemment un commencement à la révolution industrielle, un premier acte à la guerre de 14, un deuxième acte après 1945. Ce grand phénomène de l'exode rural, il a amené les paysans à refluer vers les vallées, à disparaître, et du coup les chemins, les routes qui étaient empruntées par le peuple paysan, eh bien ils sont devenus des chemins qui sont en train d'être reconquis par les ronces, par les vipères, par les sorbiers, par les mousses, par les renards. Enfin, par toute cette espèce de peuple de la faune et de la flore qui montre que nous revenons là à une forme de primitivité. Voilà, ça c'est le chemin noir visuel. Et puis il y a un troisième chemin noir, et j'en finis avec ma définition. La troisième définition, enfin ma troisième acceptation, elle est plus symbolique, elle est métaphorique. c'est que le chemin noir sur lequel vous marchez et que vous contemplez sur la carte, vous pouvez en faire un chemin de traverse existentielle pour vous maintenir dans la société dans laquelle vous vivez, dans la ville dans laquelle vous vivez, par exemple, dans le pays dans lequel vous vivez, dans la génération à laquelle vous appartenez, à l'époque dans laquelle vous êtes né. Vous pouvez vous maintenir sur un faisceau de routes, de pistes, qu'il ne tient qu'à vous d'inventer, et que j'appelle les chemins noirs, nos propres chemins noirs, qui sont des chemins intérieurs, où il convient simplement de convoquer les armes d'une forme de solitude, de silence, et surtout de refus de se soumettre à tout ce diktat d'une époque marchande et technocratique où nous devrions uniquement être des tripoteurs de gadgets technologiques ou des consommateurs de produits de consommation courante. Alors voilà, ça peut être ça aussi le chemin noir.
Alors, le récit, comme je le disais, s'échelonne tout au long de cette période de 2 mois et demi. Il est rythmé par les dates précises. On a comme ça le 24 août, le 22 septembre, etc. Ce n'est pas simplement le récit qui serait déjà un très beau récit, mais de temps en temps, le récit s'interrompt et à partir d'une association liée, bien sûr, au récit, vous tirez un fil et vous vous attaquez à un certain nombre, exposez un certain nombre d'idées concernant, alors tout à l'heure on parlait d'hyper-ruralité, alors là vous avez beaucoup de choses à dire, et sur, par exemple, le fait que vous goûtez pas particulièrement le GPS.
Le
GPS.
Ah oui, oui.
Hein, c'est le genre de choses, vous n'êtes pas parti avec d'ailleurs. Pas plus les portables.
Non.
Et donc on a comme ça qui émaille le récit un certain nombre de pensées de. Et alors je vous propose d'entendre l'une de ces digressions qu'on va nous lire là à l'instant.
N'avais-je pas juré de me tenir pendant quelques mois sous le commandement des poèmes païens de Pessoa ? De la plante, je dis, c'est une plante. De moi, je dis, c'est moi. Et je ne dis rien de plus. Qu'y a-t-il de dire de plus ? Oh, je le soupçonnais, Pessoa, l'intranquille, de n'avoir jamais été fidèle à son projet. Comment croire qu'il ait réussi à se contenter du monde ? On écrit ce genre de manifeste et on passe sa vie à trahir ses théories. Pendant ces semaines de marche, j'allais tenter de déposer sur les choses le cristal du regard, sans la gaze de l'analyse, ni le filtre des souvenirs. Jusqu'ici, j'avais appris à faire de la nature et des êtres une page où noter les impressions. Il m'était urgent, à présent, d'apprendre à jouir du soleil sans convoquer de Stahl, du vent sans réciter Oderlin, et du vin frais sans voir Falstaff clapoter au fond du verre. Bref, à vivre comme un de ces chiens. Ils goûtent la paix, langue pendante, donnant l'impression qu'ils vont avaler le ciel, la forêt ou la mer, et même le soir qui tombe. Bien entendu, l'entreprise était vouée à l'échec. Un Européen ne se refait pas. À 2000 mètres d'altitude, j'avisais un replat d'herbe épaisse près d'un bunker de béton. J'allumais un feu. Le bois était humide et je soufflais tellement sur les braises que ma tête enfoncée tournait. La chaleur délogea des araignées grasses. Elles ne me faisaient plus peur. J'en avais vu beaucoup s'échapper de mes orbites. La toile de bivouac me protégea à peine des nuages humides crachés par l'obscurité. J'étais intimidée. C'était la première nuit que je passais à l'air libre après ma chute. Le sol m'accueillait à nouveau, moins brutalement cette fois. Je revenais dans mon jardin aimé, une forêt sous les étoiles. L'air était frais, le sol inégal, le terrain en pente, cela s'annonçait bien. Les nuits dehors, pour peu qu'on les chérisse et les espère, lorsqu'elles couronnent les journées de mouvement, sont à accrocher au tableau des conquêtes. Elles délivrent du couvercle, dilatent les rêves. N'entendait-on pas s'élever la clameur des villes d'Europe, de l'air, de l'air ? J'avais rêvé de m'allonger sous les sapins quand je gisais un an plus tôt à l'hôpital. Voilà que revenait le temps des bivouacs.
Voilà, nous retrouverons Sylvain Tesson la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet entretien qui clôturera sa présentation à Montpellier de ce livre sur les chemins noirs.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.